Comme Jean-Jacques l'a dit, je connais Jean-Baptiste et c'est pour ça que je suis là ce matin. Je ne sais pas où est Jean-Baptiste. Stop, il est là. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour son baptême, prenons un texte qui parle de Jean-Baptiste. Comme ça, voilà. Je ne connaissais pas les autres baptisés, désolé. Je ne sais pas si vos prénoms sont présents dans la Bible. En tout cas, là, c'est le cas. Et on va donc entrer dans ce texte, dans ce texte-là. On pourrait dire beaucoup de ce texte. Mais j'ai essayé d'être court, donc bien sûr on va passer à côté de plein d'informations qui seraient précieuses, on va essayer d'aller à l'essentiel. Après sa défaite du 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy dira « Vous n'entendrez plus jamais parler de moi ». L'ex-président de la République abandonne la vie politique. Tous ceux qui avaient placé leur espoir en lui sont dépités. Les difficultés du gouvernement et du nouveau président font naître alors l'espoir d'un messie politique, un retour espéré de Nicolas. On scrute la moindre déclaration de Nicolas Sarkozy, on s'accroche à cette croyance qu'une ère nouvelle peut s'ouvrir. 4 juin 2013, depuis plusieurs semaines, le petit monde politico-médiatique s'habitue à suivre Nicolas Sarkozy dispenser des conférences aux quatre coins du monde. Selon Le Monde, il aurait confié à plusieurs interlocuteurs être prêt à revenir en politique. 12 décembre 2013, selon l'hebdomadaire Le Point, l'ancien président échafaude les conditions de son retour. Il aurait même dit « La question n'est pas de savoir si je ne veux ou pas revenir, je ne peux pas ne pas revenir, je n'ai pas le choix ». C'est une fatalité, une fatalité. 4 juin 2014, Brice Hortefeux souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP. 24 août 2014, Nicolas Sarkozy devrait se dévoiler d'ici à 15 jours. 17 septembre 2014, Nicolas Sarkozy va parler. 19 septembre, Nicolas Sarkozy fait son retour après 28 mois d'absence de la vie politique. Alléluia, le Sauveur est là. On peut imaginer, pour ceux qui espéraient, et peut-être vous en faites partie, il n'y a pas là pour ma part de jugement, mais on peut espérer ce qui s'est passé pour ceux qui attendaient tant le retour de Nicolas Sarkozy. Ces 28 mois ont dû être longs. Mais on peut aussi imaginer l'effet que cela a eu lorsque l'annonce a été faite. Celui qu'ils attendaient est enfin de retour, est enfin arrivé. C'est dans un contexte d'annonce et d'attente que notre texte d'aujourd'hui se place. Par contre, l'attente a été un petit peu plus longue. Cela fait 4 siècles que Dieu n'a plus parlé au peuple juif. Et l'homme attendu, le Messie, est bien plus qu'un simple homme politique. Le peuple juif attend son sauveur, son libérateur, son Messie. Nombreuses ont été les prophéties qui ont annoncé sa venue. Plusieurs d'entre elles vont être accomplies dans le texte que nous avons lu ce matin. Si je devais résumer ce texte en une phrase, je dirais cela. Face à son incapacité à se sauver, l'humanité avait besoin de la venue du Messie pour ôter son péché et recevoir l'Esprit de Dieu. Face à son incapacité à se sauver, l'humanité avait besoin de la venue du Messie pour ôter son péché et recevoir l'Esprit de Dieu. Je vais aborder 3 points très courts ce matin. Le premier, Jean-Baptiste, placé dans l'ombre du Messie. 2e point, l'agneau de Dieu mis en lumière. Et 3e point, le Saint-Esprit diffusé par l'agneau de Dieu. 1er point, Jean-Baptiste placé dans l'ombre du Messie. Jean-Baptiste est une sorte de pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est un révélateur qui va mettre en lumière le Sauveur. En photo, si vous connaissez un peu la photo, et là je parle peut-être d'un ancien temps, pas le numérique, mais l'argentique, le révélateur c'était le produit le plus important dans le développement du noir et blanc. Il s'agit de quelques gouttes d'un produit chimique qui vont permettre de développer une photo. Sans lui, on ne peut pas voir apparaître la photo. Et une fois que la photo se développe, on ne voit plus qu'elle. On oublie le révélateur et on admire la beauté de la photo. Jean-Baptiste, c'est pareil. Jean-Baptiste va se placer dans l'ombre afin de mettre en lumière le message, le personnage central de la Bible, Jésus-Christ. Les chefs juifs sont intrigués par Jean-Baptiste et ils veulent en savoir plus sur lui. Qui est-il ? Quel est son enseignement ? Pourquoi et par quelle autorité il baptise ? Moi, dit Jean-Baptiste, je ne suis pas le Messie. Et c'est intéressant de voir que Jean-Baptiste parle du Messie là où ceux qui le questionnent n'ont pas parlé du Messie. Ils n'ont pas posé la question « Es-tu le Messie ?» Ils lui ont demandé « Qui es-tu ? » Et Jean-Baptiste dit « Moi, je ne suis pas le Messie. » Comme s'il disait « Moi, je ne suis pas le Messie, mais attendez de voir celui qui arrive. Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ?» Les chefs juifs demandent cela car les prophéties de l'Ancien Testament avaient annoncé cela. Et ils attendent. Ils attendent un signe. Et Jean-Baptiste répond de façon lapidaire par la négative. Mais qui es-tu alors ? Et pour répondre, Jean-Baptiste cite le prophète Ésaïe, sans doute le prophète le plus important pour le peuple juif, peut-être le plus connu. Cette parole a été donnée 700 ans avant la scène que nous sommes en train de vivre. Et voici ce qu'elle disait. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 40. En d'autres termes, Jean-Baptiste dit « Je suis cette voix que Dieu a annoncée à Ésaïe il y a 700 ans. Je suis cette voix qui crie, je suis l'accomplissement de cette prophétie, je suis celui qui prépare le terrain pour le Messie. » Et pourquoi baptises-tu alors, si tu n'es pas le Messie ? Et fidèle à lui-même, Jean-Baptiste répond en mettant en lumière celui qui va venir. Jean ne baptise que d'eau, mais celui qu'il annonce est différent. Tellement important que Jean n'est pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Après cette préparation du terrain, Jean-Baptiste va pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est mon deuxième point dans ce texte. L'agneau de Dieu mis en lumière, ou révélé, si on veut garder cette image du révélateur. Le lendemain, nous dit le texte, Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher. Il lâche alors quelques mots, mais des mots d'une importance incroyable. Voici. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ces propos, ces mots sont révolutionnaires. Premièrement, parce que l'agneau était un symbole fort pour les Juifs. Ésaïe avait annoncé, encore lui, que le sauveur du monde serait semblable à un serviteur souffrant, un homme de douleur. Et il le compare, dans Ésaïe 53, à un agneau que l'on mène à l'abattoir. Et maintenant, en pointant Jésus et en le décrivant comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste est en train de dire « Voici celui qu'Ésaïe annonçait, voici votre Messie, voici le serviteur souffrant qui va sauver le monde. » Voilà des siècles que le peuple attend cet homme. Deuxièmement, L'agneau était aussi utilisé comme sacrifice d'expiation pour les péchés. Puisque Dieu est sans faute, qu'il est parfait, qu'il est juste, qu'il est saint, l'homme est incapable de le rejoindre, de se présenter devant lui. Et puisque Dieu est juste, il fallait que quelqu'un paye pour les fautes de tous les hommes. Et c'est pour cela que le pécheur offrait alors, dans l'ancienne alliance, dans le peuple juif, avant que Jésus-Christ n'arrive, il offrait un agneau en sacrifice. Il posait sa main sur la bête de l'animal et égorgeait la bête. L'agneau portait alors la faute du pécheur et cela apaisait la colère de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu, il annonce qu'il est celui que Dieu a choisi pour mourir et porter la faute de toute l'humanité, une fois pour toutes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'annonce de Jean est un électrochoc. Les agneaux sacrifiés pour apaiser la colère de Dieu n'étaient en fait que des symboles, une pédagogie de Dieu pour annoncer quelque chose de bien plus grand. Ces sacrifices de bêtes ne pouvaient pas calmer la colère de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu l'avait annoncé à son peuple. « Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. » Mais comment ? C'est toi qui nous demandes de sacrifier des animaux à cause de notre faute. Et maintenant, tu dis qu'ils ne sont point agréables et que tu ne les reçois pas. Mais il n'y a pas d'espoir alors. Comment faire avec notre péché si même quand on essaie de faire pardonner nos péchés en égorgeant un animal, tu ne le reçois pas ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici ce que Dieu préparait depuis tant de siècles. Troisièmement, Jean dévoile que Jésus enlève le péché du monde. Non seulement Jésus est le sauveur du peuple juif, mais également du monde entier. Toutes les nations pourront être au bénéfice du sacrifice de Jésus. Il n'y aura pas de barrière ethnique. La seule condition au salut sera de placer sa foi en Jésus. Et là encore, les propos de Jean sont révolutionnaires. Troisième et dernier point, le Saint-Esprit diffusé par l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste va mentionner une dernière caractéristique de Jésus. Elle lui a été révélée par Dieu lui-même. Je cite le texte. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est par Jésus que viendra l'Esprit de Dieu. Cette venue de l'Esprit était aussi annoncée et attendue par le peuple juif. Cet Esprit est le signe de la foi, de la nouvelle vie que Dieu veut donner à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Cet Esprit, en fait, c'est la présence de Dieu dans une vie d'un pécheur qui a été pardonné, d'un homme ou d'une femme qui a été sauvé par Jésus-Christ. Cet esprit étanche toutes les soifs. Peut-être ce matin, vous avez soif de quelque chose. Et vous ne savez peut-être même pas quoi. Le monde dans lequel vous vivez, vous êtes obligé d'y vivre, mais peut-être certains domaines ne vous conviennent pas. Il y a comme un couac. Il y a comme quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on cherche, quelque chose dont on a soif, soif de justice, soif de paix, soif d'amour. Voilà ce que Jésus dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Pour Jean-Baptiste, il est clair que Jésus est le Messie, le Sauveur, l'agneau qui ôte le péché du monde. celui qui veut nous donner son esprit, celui qui veut venir habiter dans nos vies, c'est-à-dire nous faire naître spirituellement. Si nous appelons Dieu notre Père, c'est parce qu'il nous a fait naître spirituellement. Si la Bible dit vrai, Jésus est plus qu'un simple homme. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un homme de paix. Jésus est un sauveur qui veut étancher notre soif et qui veut ôter notre péché. Le péché n'est pas un mot qui est très populaire. Et souvent, on se méprend sur ce mot-là. Le péché, ce n'est pas les petites choses qui ne vont pas dans notre vie. Ça, c'est la résultante du péché. La Bible nous dit que le péché, c'est la rébellion, la révolte contre Dieu. C'est l'homme qui veut gérer sa vie seul. C'est l'homme qui dit « j'ai pas besoin ni de Dieu ni de maître ». Ça, c'est le péché. Et ça, nous le vivons tous, plus ou moins intensément, selon les moments. Nous avons envie de dire « basta » à Dieu et de faire nos propres choix. Ça, c'est notre nature humaine. Nous sommes assez forts, nous sommes assez costauds, nous n'avons pas besoin d'un Dieu. D'ailleurs, il est où ? Ça, c'est la manifestation du péché. Ça, c'est la pire chose que l'homme peut vivre vis-à-vis d'un Dieu créateur aimant. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui ôte le péché. Ce matin, nous croyons qu'il est là, présent au milieu de nous, et nous croyons qu'il veut ôter le péché de chacun d'entre nous, de ceux qui le connaissent, qui sont chrétiens et qui ont l'habitude de revenir à lui régulièrement en demandant pardon. Il est à l'écoute, il pardonne. Il pardonne tout parce qu'il a donné sa vie en mourant à notre place. Mais il est aussi là pour ceux qui ne le connaissent pas. Et peut-être vous le découvrez pour la première fois ce matin. Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir s'incarner dans notre monde, pour mourir pour vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui veut enlever et pardonner votre péché afin que vous soyez en paix avec Dieu, reconnectés à lui. Vous allez entendre dans quelques instants des témoignages de personnes qui ont été frappées par la miséricorde de Dieu, par l'action de Jésus-Christ. Et vous allez certainement entendre, je ne connais pas les témoignages, mais je sais qu'ils sont tous très ressemblants, parce que Jésus-Christ fait la même chose dans chacun d'entre nous. Écoutez bien ce que ces personnes vont dire. C'est l'action réelle d'un Dieu réel dans notre monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous invite à la prière. Nous cherchons tous un sauveur. Malheureusement, notre Dieu, nous le cherchons trop régulièrement dans les hommes, dans la science, dans la politique, dans l'associatif, dans le sport, dans la musique. Quelqu'un qui puisse nous sortir de la morosité ou ambiante de ce monde. Parfois, nous croyons que c'est nous-mêmes le sauveur. Ce texte nous révèle que c'est Jésus-Christ. Et nous voulons te prier, notre Père et notre Dieu, que chacune des personnes présentes dans cette salle puisse comprendre cette parole et puisse se laisser approcher est touché par Jésus-Christ, afin de se laisser pardonner, transformer, sauver, pour être réconcilié avec Dieu le Père et pour entrer dans ce projet magnifique de la vie éternelle que tu offres. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen.